le berceau de l'histoire. Jean-Pierre Constantin.
Bonjour à tous. Notre sujet aujourd'hui, c'est l'amour et la sexualité dans l'Égypte des pharaons. Pour parler de ce sujet, j'ai invité un égyptologue bien connu, Pascal Verdus, auteur de très nombreux livres sur l'Égypte ancienne, dont entre autres un dictionnaire des pharaons, écrit avec le regretté Jean Yoyotte, qui était professeur au Collège de France, et surtout un dictionnaire amoureux de l'Égypte pharaonique, paru chez Plon. Pascal Verdus, bonjour et merci de venir à RFI.
C'est un plaisir pour moi.
Alors, bon, la sexualité chez les Égyptiens anciens, les pharaons, est un vaste sujet. Dites-moi d'abord, j'ai lu dans un de vos articles que Champollion, le déchiffreur de la langue des hiéroglyphes, que Champollion était choqué parfois par le côté cru de certains textes égyptiens.
Il a eu la chance, ou la malchance pour lui, de tomber sur un papyrus, qu'on appelle le papyrus de Turin, dont le contenu est fortement pornographique. Et quand il a vu ça, il a écrit, il s'est montré particulièrement choqué en disant comment les Égyptiens pouvaient se livrer à de telles débauches. C'est assez illustratif d'une image un peu idéalisée que Champollion et d'autres avaient de l'Égypte ancienne. Mais il ne faut pas oublier que l'Égypte ancienne, c'est les pyramides, on est tous d'accord, mais c'est aussi des gens de chair et d'os, et que la sexualité, ça existe partout, même si elle est réfrénée, même si elle s'exprime de manière édulcorée ou rarement, mais les Égyptiens, ils étaient comme vous et moi. Hein.
Alors, ce papyrus de Turin, vous en parlez souvent, vous en parlez dans des articles, on le connaît bien, on va en parler un petit peu. Papyrus érotique, entre guillemets, pornographique. Alors, on l'appelle le papyrus de Turin parce qu'il se trouve au musée de Turin.
Vous pouvez le voir actuellement au musée de Turin.
Et pendant très longtemps, ce papyrus a été caché et même abîmé à force d'être caché.
Mais c'est exactement ça. C'est à mourir de rire, cette histoire-là, parce que les conservateurs du papyrus de Turin trouvaient que c'était odieux d'exposer ça. Donc, ils l'ont mis dans l'enfer. Ils allaient le consulter discrètement, il ne faut pas le dire. Mais ils le cachaient au public. Et ils l'ont tellement bien caché que le papyrus est beaucoup plus abîmé à l'heure actuelle qu'il l'était au moment où Champollion a pu l'avoir sous les yeux.
Alors, il a traversé les siècles en Égypte. Il est resté intact. Et puis, à Turin, en quelques années, il s'est abîmé. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ce papyrus ? D'abord, il faut dire que c'est énorme comme papyrus.
C'est un très grand papyrus qui est une bande dessinée. Nous connaissons tous la bande dessinée et les Égyptiens avaient ce concept de la bande dessinée. Alors, il est divisé en deux parties. Alors, une partie à droite, ce sont ce qu'on appelle des parodies animalières. Ça veut dire que les animaux sont présentés jouant des rôles qui sont impartis aux humains. Et puis de l'autre partie, la partie la plus importante, il y a 12 scènes. Alors, le terme érotique ne convient absolument pas, mais il est significatif. Il est significatif d'une tendance à euphémiser tout ce qui est égyptien pour se conforter à l'image idéale qu'on avait des Égyptiens. Mais personnellement, et je pense que beaucoup de gens partagent mon avis, l'érotisme, c'est pas ça. Ou alors, si c'est pour eux l'érotisme, c'est un peu grave. Hein. Non, il s'agit de pornographie pure et dure.
Carrément.
Donc, ah, oui, carrément. Il n'y a aucun problème là-dessus.
On ne se gêne pas. Est-ce que vous pouvez nous décrire quelques scènes
hein,
parce
Bien
que
sûr.
Il y a les scènes décrites, il y a aussi des mots crus, des phrases.
Absolument. Alors vous avez 12 scènes différentes dans lesquelles des espèces de drilles, de joyeux drilles, un peu vulgaires, hein, ce ne sont pas des Égyptiens raffinés. On les présente très clairement comme des gens, des vagabonds, des gens de la lie qui viennent s'amuser dans un lupanar. Et donc, ils font face chaque fois à des professionnels. Alors, le problème, c'est que les professionnels ont beaucoup de talent et beaucoup d'imagination. Alors, par exemple, il y en a une qui se fait prendre sur un char. Bon, il y en a une autre qui se fait prendre de manière très, très complexe, qui demande beaucoup d'acrobatie. D'ailleurs, les gens qui sont représentés, ils sont toujours sur la pointe des pieds et parfois, pour garder l'équilibre, ils s'accrochent à la perruque de ces dames. Il y a donc une imagination pornographique tout à fait débridée, mais qui n'est pas sans fil directeur. En réalité, ce qu'il y a derrière, c'est la parodie de scènes religieuses. Je vais vous donner un exemple très précis que tout le monde connaît.
Ah, en plus, c'est du blasphème.
Blasphème, le mot est peut-être un peu fort, mais une parodie un peu ironique. Je vais vous donner un exemple que tout le monde connaît. Chacun sait qu'en Égypte ancienne, le ciel est représenté comme une dame arc-boutée et en dessous, la terre est représentée comme un homme qui dresse de manière significative l'instrument qui lui tient le plus à cœur. Vous avez compris ?
Une érection.
Et donc, ce qu'il y a, c'est que dans cette scène de Lupanar, il y a une scène où la prostituée et le joyau de riz sont dans la même position. C'est-à-dire qu'on fait allusion à ça, bien entendu, c'est une dérision.
Alors, vous avez parlé de bande dessinée, sans mauvais jeu de mots. Il faut dire que les hiéroglyphes, c'est une écriture un peu particulière. C'est une écriture qui dessine plus qu'elle n'écrit. Donc, tous ces mots qui désignent, je dirais, la sexualité ou les organes sexuels, ils sont dessinés, carrément ?
Il faut distinguer deux types d'écriture. Vous avez les hiéroglyphes qui est figurative. Qu'est-ce qu'on appelle figurative ? Ça veut dire que ça représente des objets du monde tels que n'importe qui peut les identifier. Mais à côté de ça, pour la vie pratique, il y avait une écriture plus facile qu'on appelle le hiératique, qui est la même écriture, mais de manière où on perd la figurativité, on ne connaît plus les signes, ça permet d'écrire plus rapidement. Et dans le cas du papyrus de Turin, ce n'est pas une inscription hiéroglyphique, mais c'est une inscription qu'on appelle hiératique, c'est-à-dire cursive. On ne va pas compliquer les choses.
Ils ont donc évité le pire, ils ont évité d'être très explicites.
Alors, mais dans d'autres textes, ils sont tout à fait explicites. Vous avez certains signes qui représentent le phallus, d'autres qui représentent le vagin. Et il y a un signe qui représente le phallus dans le vagin. Donc, mais dans les textes des pyramides, dans des textes religieux que le roi emportait avec lui dans sa tombe.
Du papyrus de Turin, on peut le voir, ce papyrus, il est au musée
exposé,
de Turin.
Il est exposé au musée de Turin. D'ailleurs, je conseille à tous ceux qui s'intéressent à l'égyptologie d'aller à Turin où le musée a été entièrement refait et c'est absolument magnifiquement présenté. C'est un peu décevant parce qu'il est très abîmé, mais vous pouvez le voir là-bas.
Très bien. Mais il y a d'autres textes, il y a beaucoup de textes,
absolument.
Si j'ai bien compris.
Alors, il y a deux catégories de textes. D'abord, il faut savoir que la représentation de l'amour joue un rôle de symbolique dans la religion. Donc, les scènes religieuses utilisent des représentations qui seraient pour nous choquantes, mais sans aucune arrière-pensée pornographique. Par exemple, la fécondité, elle est représentée par un dieu qu'on appelle le dieu Mine, et qui montre de façon éloquente, c'est un homme, un vrai, hein.
qui montre donc sa virilité.
Voilà, il y a des mythes aussi qui racontent que, par exemple, la femme, les déesses, ont comme rôle de susciter la force du dieu créateur. L'idée est la suivante. Le dieu créateur, c'est celui qui maintient le monde, mais il risque de se fatiguer. Et le rôle des déesses, c'est de réveiller les puissances du dieu en se montrant érotique. Par exemple, on a un conte qui était à mourir de rire. Et il y a un dieu comme ça qui est vexé parce qu'on lui a fait une réponse qui n'était pas très gentille. Alors il boude. Et alors tout le monde est désolé parce que comme il boude, il ne fait plus rien. Alors qu'est-ce qui arrive ? Une déesse arrive et soulève sa robe et lui montre son sexe. Et à ce moment-là, le dieu qui boudait reprend de la force et regaillardit et se remet à l'œuvre et au maintien du monde.
Alors, il y a dans l'Égypte ancienne la sexualité des dieux, il y a la sexualité des pharaons, des rois, et il y a la sexualité quotidienne, enfin la sexualité des gens ordinaires, comme vous et moi.
Alors il y a un grand contraste, parce que autant dans les représentations religieuses, les symboles de sexe se laissent voir, autant dans la vie quotidienne, il y avait une sorte de répression de la sexualité. Dans les scènes de tombe, on ne montre jamais des scènes crues, c'est toujours par allusion. Par exemple, on représente la dame jouant de la harpe à côté de son mari. Le sous-entendu est clair, n'est-ce pas? Mais ça reste toujours sous-entendu. Je vais vous donner un exemple que tout le monde connaît. Tout le monde connaît Toutankhamon et tout le monde connaît les chapelles de Toutankhamon où on voit la reine face au pharaon. Et alors, il y a une scène qui montre la reine versant de l'eau comme ça. Et le texte égyptien dit « faire une libation ». Mais le mot égyptien « faire une libation » est à double sens. Il est homophone d'un mot qui veut dire « faire l'amour ». Donc, en réalité, sous des aspects guindés, élégants, on représente l'amour entre le pharaon et sa femme.
Donc, il y a aussi beaucoup de jeux de mots sur le thème de la sexualité.
Absolument.
Comme de nos jours, comme dans toutes les
langues. Absolument. Et dans le papyrus de Turin, on l'appelle la souris, n'est-ce pas? Il y a une dame qui dit, n'aie pas peur, montre-moi ta petite souris. Et vous avez compris ce que veut dire la souris?
Non, je n'ai pas compris.
Vous n'avez pas compris.
Alors,
il faudra demander à vos parents.
L'Égypte des pharaons, c'est quand même environ 3 millénaires.
Absolument.
Les mœurs ont dû changer. Absolument. En 3000 ans. C'est pas tout le temps pareil. Cette période, je dirais, de liberté sexuelle, de libération de la parole et de la représentation, est-ce qu'elle est unique? Où est-ce que c'est répandu? C'est quelle période à peu près?
Alors en fait, c'est tout le temps, mais c'est sous-jacent. Il ne faut pas oublier. En dehors, je ne parle pas de la religion. Dans la religion, les symboles sexuels se donnent libre cours parce qu'ils sont investis d'un symbolisme religieux. Dans la vie quotidienne, il y a quand même un interdit qui pèse, mais c'est interdit, comme tout interdit, et parfois fissuré. Et le papyrus de Turin, ben c'est ça. C'est le moment où la cocotte minute doit laisser passer la vapeur, parce que toute société est réprimée, mais la répression a besoin de s'exprimer de temps en temps. Ça, c'est un concept que l'on connaît chez nous. Le concept que l'on a du carnaval. Qu'est-ce qui se passe? Dans ces sociétés répressives, de temps en temps, un jour ou deux ou trois sont consacrés à la libération. C'est le carnaval. Alors les rôles sont inversés et la sexualité s'épanouit. Eh bien, c'est pareil. Le papyrus de Turin, qui date de l'époque ramesside, c'est-à-dire 1200 avant Jésus-Christ, grosso modo, hein, c'est une expression de libération qu'il fallait pour, de temps en temps, laisser un exutoire. Mais sinon, par ailleurs, la société est sexuellement très répressive. Il ne faut pas se tromper.
L'époque ramesside, c'est Ramsès II.
Ramsès II, 1200 avant, grosso modo. 1250 avant Jésus-Christ, grosso modo. Hein.
Plusieurs reprises, là, depuis tout à l'heure, quand vous parlez de sexualité, vous parlez de religion. Quel est exactement le lien entre les pratiques religieuses, les interdits religieux, les croyances religieuses et la sexualité? Est-ce qu'il y a des liens?
Oui, il y a un lien très fort. Je vous parlais tout à l'heure du rôle de la déesse qui est censée, par sa présence, faire regaillardir les forces un peu exténuées du démiurge. Eh bien, il y avait une institution religieuse qu'on appelait la divine épouse. C'était une dame qui était forcément célibataire et qui était dans chaque temple égyptien et qui était censée représenter par les rites, justement la déesse revigorant la sexualité qui menace de s'effondrer du créateur. Donc là, les croyances religieuses ont généré une institution qu'on appelle la divine adoratrice et qui a joué un rôle fondamental à partir d'une certaine époque, à partir du premier millénaire. Cette dame avait un domaine très riche, elle était très puissante, et chaque pharaon essayait de placer les gens de sa famille comme divine adoratrice, parce qu'elle était vouée au célibat. Donc il fallait, elle se cooptait les unes entre les autres. Et chaque fois, le pharaon essayait de faire coopter sa fille, tant la puissance de la divine adoratrice était forte, tant son domaine était important, et tant son rôle politique était prégnant.
Alors, on parle beaucoup de la place des morts dans la société égyptienne antique. Est-ce que les morts, on sait que les morts continuaient à manger, à boire, est-ce qu'ils continuaient à faire l'amour ?
C'est un très grand souci. Vous savez qu'on a une littérature funéraire qui est en gros destinée à permettre aux morts de revivre dans l'au-delà. Et dans sa vie dans l'au-delà, la sexualité tient un grand rôle. Alors, on le fait par des figurines, par exemple, dans les tombes, le mort emporte avec lui des figurines représentant des dames tout prêtes à l'accueil. Il y a dans les littératures funéraires beaucoup de sorts, de conjurations qui sont destinées à aider le mort à retrouver dans l'au-delà, dans le monde qui est souterrain de l'au-delà, la vigueur qu'il avait dans la vie quotidienne.
Alors, on parle beaucoup d'égalité aussi dans la société égyptienne, en tout cas pour les rois, les reines et la société riche, on va dire. Est-ce que la sexualité féminine était aussi libre et épanouie que la sexualité masculine ?
Elle était en tout cas pas aussi réprimée que dans d'autres sociétés. Je vais vous donner un exemple qui est absolument extraordinaire. Dans un conte, on raconte l'histoire suivante. Un pauvre aveugle est abandonné, à moitié dévoré par les lions. Là, une dame qui était là le reprend chez elle, et puis elle le trouve très très beau, et la nuit, elle a un rapport avec lui, et puis ensuite elle le laisse comme son simple portier. Donc c'est la femme libérée, hein. Être une femme libérée, c'est pas si facile, hein. Bon, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Eh bien, de cette union, une seule nuit, va naître un fils, lequel fils va se venger de son père et se punir la mère sévèrement d'avoir agi comme ça. Donc vous voyez, la femme libérée, mais être femme libérée, c'est pas si facile, parce qu'ensuite, on est puni pour ça.
Alors, nous sommes toujours avec Pascal Vernus pour parler de sexualité et d'amour dans l'Égypte des pharaons. Les représentations sexuelles ou les textes qui parlent de sexualité, à quoi servaient-ils et à qui s'adressaient-ils dans cette société égyptienne ?
Alors, il faut distinguer, je vous dis, les textes de sexualité proprement dites sont soit religieux, soit tout à fait limités. Mais en revanche, il y a quelque chose sur lequel je voudrais insister, parce qu'on parle des pyramides d'Égypte, mais il y a une autre pyramide. Une pyramide de mots qui s'appelle la littérature amoureuse. Et personne ne le sait, ou les gens ne le savent pas, mais les Égyptiens ont créé une littérature amoureuse, justement, absolument magnifique, avec des poèmes d'une très grande beauté et d'une très grande modernité. Alors la sexualité dans ces poèmes, elle est comme toujours cachée, ou du moins à deviner à demi-mot. Mais elle existe quand même.
Suggérée.
Elle est suggérée, c'est exactement le mot qui convient.
Je vois que vous avez des notes, donc vous avez des citations à nous faire.
J'ai absolument des citations. Cette poésie, je vous répète, elle est magnifique. Et donc, en général, on met en rapport la sœur et le frère. Il n'y a pas du tout d'inceste là-dedans. Ça veut dire simplement qu'ils sont partenaires au point de vue social et au point de vue âge. Et alors, ils se répondent l'un à l'autre en citant avec des termes qui sont tout à fait magnifiques. Par exemple, l'image qui est filée dans cette littérature amoureuse, c'est la belle qui prend au lasso le cœur de l'amant avec ses cheveux. Et on compare les cheveux au lasso. Et c'est absolument merveilleux. Et puis, par exemple, on compare aussi les oiseaux qui sont pris au piège à l'amour qui prend au piège. Par exemple, je vous donne un exemple. Voix de la sarcelle. La sarcelle, c'est une sorte de canard en train de crier. Prise avec son appât. L'amour de toi me bouleverse, je ne sais le laisser aller. Autrement dit, on fait la comparaison entre la sarcelle qui est prise dans un piège et le jeune homme qui est pris dans le piège de l'amour. Vous avez, je vous donne d'autres exemples, par exemple aussi, « Agréable est une pièce d'eau que ta main a creusée pour nous rafraîchir à la faveur du vent du nord. C'est un bel endroit de promenade quand ta main est sur ma main et mon cœur revigoré de plaisir pendant notre commune déambulation. » C'est magnifique, hein ? C'est l'amant et l'amante qui se promènent comme ça. On est bien loin de l'Égypte hiératique. Il y a une espèce de spontanéité qui est absolument merveilleuse.
Et ça, c'est écrit sur des papyrus aussi ?
Sur des papyrus de la même époque, à peu près de l'époque Ramesside, que l'on connaît. C'est des papyrus magnifiques, d'ailleurs, qui sont extrêmement soignés et dans lesquels sont répertoriés tous les poèmes d'amour. Je vous donne par exemple un exemple qui me touche beaucoup parce qu'il est moderne. Voilà ce qui se passe. La dame, elle attend son amant. Et elle attend tellement qu'elle a l'impression de le voir. Il y a donc quelque chose de tout à fait étonnant, c'est qu'elle devient psychotique. Nous avons un texte qui dit « Mes yeux sont tournés vers la route, mes oreilles sont à l'écoute. Est-ce un écuyer de l'équipage ? L'amour du frère, c'est l'amant, est mon unique préoccupation. Ma pensée est entièrement ce qui se rapporte à lui. Mon imagination ne se tient pas coite. Elle m'a dépêché un messager au pied rapide qui fait des allées et venues pour me dire que l'amant m'a trompé. Autrement dit, il en a trouvé une autre. » En réalité, ce n'est pas ça, c'est elle qui s'imagine. Et là, vous voyez cette poésie moderne d'aller, même l'imagination qui fait croire à l'amante qu'elle est trompée, tellement l'attente la torture.
Alors, la traduction est de qui ? Parce qu'elle est remarquable.
Excusez-moi de me citer, mais j'ai traduit ce texte, j'ai fait écrire un petit livre qui s'appelle « La poésie amoureuse de l'Égypte ancienne » où j'ai traduit tous ces textes qui sont magnifiques.
Et cette poésie amoureuse, vous n'avez pas répondu à ma question, la poésie amoureuse s'adressait à qui ?
Alors là, il faut bien dire qu'il s'agit de l'élite. Tout ce qui se passe, ça se passe dans des jardins, des belles villas, des chars, et ça appartient uniquement à l'élite. C'est l'élite dirigeante, celle des grands prêtres, celle des grands officiers de l'Égypte, c'est quelque chose qui n'est pas du tout populaire. Nous ne cherchons pas du tout une veine populaire là-dedans. C'est un peu la clientèle de Ronsard, hein. Et donc pas vraiment l'amour très vulgaire ou primitif. Hein.
Parlons un petit peu, quand même, de l'amour et de la sexualité dans les milieux populaires. Comment vivaient les Égyptiens au quotidien ? Est-ce qu'on peut dire que c'était... Alors, je rappelle que c'est quand même 3 millénaires, donc ça a dû changer d'un moment à l'autre. Mais est-ce que c'était une société permissive ? Est-ce que c'était une société rigide ? Est-ce que la sexualité était honteuse, réprimée ?
On a effectivement le viol existait. Nous avons l'histoire d'une espèce de canaille qui s'appelait Panep, qui peu importe le nom, mais qui a reçu une plainte contre lui. Et parmi les plaintes qu'on s'adressait à lui, c'est le fait d'avoir violé des dames. Alors, c'est un acrobate. On raconte dans l'histoire qu'il les mettait sur le faîte d'un mur et qu'il les violait. Et ensuite de quoi ? Pour pas qu'elles aillent porter plainte, il les aveuglait. Enfin, c'est une histoire absolument étonnante, mais c'est pas la seule. Il y a le problème du viol et latent. Eh bien, il y a quand même, il faut savoir se conduire, et tous les Égyptiens ne savaient pas se conduire comme maintenant, hein, comme nous, chez
et
nous.
Et comment se comportait la société avec les agressions sexuelles comme ça ? Est-ce que c'était réprimé ?
En principe, c'est réprimé, mais dans l'histoire de Paneb, il semble qu'il n'a pas été puni. Il y a une grande plainte qui a été livrée contre lui. Théoriquement, c'était quand même réprimé, mais on ne sait pas s'il y a eu une suite. En tout cas, il y avait quand même un code de conduite, même dans le peuple, hein, où il fallait respecter. Il n'y avait pas de mariage institutionnalisé, mais on respectait les gens qui vivaient ensemble. Et lorsque il y avait divorce, par exemple, la femme n'était pas laissée pour compte. Elle avait le droit à un tiers des acquêts. Donc, vous voyez, il y a quand même une société qui n'est pas une société barbare, mais qui est bien policée.
Ah, donc il n'y avait pas de mariage, mais il y avait de la monogamie, de la polygamie ?
Alors, contrairement à ce qu'on croit, la monogamie était plutôt, en général, dominante. Le seul cas d'inceste et de polygamie, c'est surtout chez les pharaons. Les pharaons, par exemple, Ramsès II, avait plus d'une centaine d'épouses. Et il épousait volontiers ses sœurs et ses tantes. L'inceste entre le pharaon et ses filles, c'est beaucoup plus rare et c'est très douteux. Hein. Mais l'inceste, au niveau des générations, de la même génération, est très fréquent. Maintenant, pour les gens du peuple, pour l'élite, c'était plutôt rare. On a quelques cas de polygamie, mais ils sont relativement limités.
Donc la règle en général dans la cité, c'était d'être monogame,
oui.
C'était d'avoir une vie de famille, un
absolument.
Couple.
Absolument. Les sagesses nous disent, marie-toi très jeune pour avoir des enfants. Il y a quand même ces impératifs sociaux. La société, elle doit se reproduire. Donc la société se crée des règles qui permettent sa propre reproduction.
Et est-ce que l'objectif de la sexualité et de l'amour était d'avoir des enfants, était la procréation, ou bien est-ce que c'était le plaisir ?
Non, c'est vraiment... Alors, les impératifs moraux sont vraiment la procréation. Ça, c'est très net, il faut avoir un fils, il faut avoir des enfants. Mais malheureusement, je suis obligé de le dire, un fils.
La vie vie dans la cité, elle était mixte. Les femmes sortaient de chez elles. Elles pouvaient se balader comme elles voulaient.
Elles ont une certaine liberté, une plus grande liberté qu'il n'y a dans d'autres sociétés. Ça, la société égyptienne est extrêmement libérale. Elle n'est pas aussi libérale que la nôtre. Beaucoup s'en fout, mais vous avez des femmes qui sont propriétaires de biens. Vous avez des femmes qui gèrent des biens. Et donc, bien qu'elle soit représentée plus pâle que son mari parce qu'elle est censée rester à la maison, en réalité, elle a une vie tout à fait relativement libre par rapport à la moyenne, bien entendu.
Alors ça, c'est intéressant. C'est très courant, cette représentation des femmes plus pâles ou plus claires que les maris. C'est un petit peu répandu partout dans le
bassin méditerranéen. C'est une convention, c'est la convention.
Et c'est plutôt les hommes qui sont dépeints plus la peau tannée par le soleil,
c'est ça, exactement.
La peau plus sombre. Donc on trouve ça chez les Grecs, on trouve ça chez les Étrusques, on trouve ça un petit peu...
Purement conventionnel dans l'Égypte ancienne. Les femmes travaillent au champ, les femmes... Donc c'est vraiment de la convention.
Alors est-ce qu'il y avait chez les Égyptiens, comme il y avait chez les Mésopotamiens, des tavernes, une vie publique, des lieux, je dirais, de perdition où les hommes et les femmes se retrouvaient. Est-ce que les femmes libres pouvaient se rendre dans ces lieux-là?
On n'a pas d'indication que les femmes puissent jouir autant de liberté que les hommes. Les hommes, oui, les vieux scribes se plaignent que les jeunes étudiants passent leur temps à boire de la bière avec des femmes dans les tavernes. Ça, mais il n'y a pas le symétrique avec les dames. Le seul cas que je vous ai cité, c'est cette femme libérée tout à l'heure. Il n'y a pas une aussi grande liberté, bien entendu, pour la femme. Mais il y a une liberté quand même. Et puis, par exemple, on a une prostitution. Il y a un jeune qui tombe amoureux d'une dame. Alors, il veut l'acheter. Alors, elle se fâche. Non pas parce que l'homme ne lui paie pas, mais parce qu'il voulait l'acheter. Elle dit, il faut mettre les formes. Je veux bien coucher avec toi, mais vas-y, je suis une princesse et je ne suis pas celle que tu crois.
Ah, donc la prostitution existait, mais il fallait...
Y mettre les formes.
Il fallait y mettre les formes. Et cette liberté de mœurs, encore une fois, elle est spécifique à une époque de l'Égypte ou bien est-ce qu'elle est beaucoup plus répandue ?
Disons, il faut faire attention à notre documentation. Notre documentation est biaisée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas égale à toutes les époques. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Tout à fait.
Les papyrus et les documents de la pratique qui nous racontent la vie quotidienne, ils sont beaucoup plus nombreux, par exemple, au Nouvel Empire. Donc, on est mieux documenté là-dessus. Mmh. Et c'est à cette époque qu'apparaissent les exemples de prostitution, de viol, etc. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas avant. Mais avant, la documentation de ce type-là, ce qu'on appelle papyrologique, est beaucoup plus limitée. Et donc, on est moins renseigné. Donc, il y a un biais pour juger de la chronologie.
Le Nouvel Empire, c'est...
Alors, Nouvel Empire, grosso modo, ça commence en 1500 avant Jésus-Christ et ça finit en 1000 avant Jésus-Christ. L'acmé, c'est d'abord Toutmosis III et Hatshepsut, que vous connaissez. Ensuite, Akhenaton, hein, et puis ensuite Ramsès II. C'est les grands noms, je ne cite pas tout le monde, mais voilà les grands noms du Nouvel Empire. Hein. Donc, Toutmosis III, le conquérant, Hatshepsut, qui est bien connue parce qu'elle a essayé d'être reine, et puis, évidemment, l'intermède amarnien avec Akhenaton. Et puis, Ramsès II, qui est connu pour la bataille de Kadesh et pour le grand temple d'Abou Simbel.
Est-ce que le Dieu unique, est-ce que le monothéisme a été un facteur de changement de mœurs sexuelles ?
Non, il n'y a pas de... il y a du moins dans la présentation. Ce qu'il y a de frappant chez Akhenaton, vous faites allusion, bien entendu, à Akhenaton qui a décidé de n'avoir qu'un seul dieu, le dieu Aton, le disque solaire. Eh bien, ce qu'il y a de changé, c'est la représentation des relations entre le pharaon et sa femme. Par exemple, on a des scènes absolument incroyables où le pharaon et sa femme sont sur un char et se bécotent gentiment. Ça, c'était pas possible dans le hiératisme des scènes autrement dit. Autrement dit, il y a une certaine libération des codes avec Akhenaton et avec son monothéisme. Mais ça disparaît très vite.
Eh bien, Pascal Vernus, vous êtes intarissable et on pourrait passer des heures, mais malheureusement, le temps passe vite. Merci beaucoup d'être venu nous voir à RFI. Cette émission a été réalisée par Eva Piedel. Merci à vous tous de l'avoir suivie et à très bientôt sur RFI. Au revoir.